Sandrard reviendra parfois dans mon propos. Mandiargue entre les arts, c'est entre les arts qu'André-Pierre de Mandiargue a composé les poèmes de Jacinthe. Mais entre quels arts ? Non pas les arts majeurs que sont la peinture et la sculpture, mais aussi la musique, la photographie ou le cinéma, avec lesquels il dialogue de belvédère en belvédère. Pour écrire ces Jacinthes, il s'est placé entre deux arts mineurs qui ne disposent pas de la tutelle d'une muse, l'art de l'horticulteur et celui du lapidaire. C'est sous leur signe qu'il a planté les poèmes fleurs ou taillé les poèmes pierres, que sont les 13 Jacinthes. Mon hypothèse est que l'entreprise du poète a un patron secret qui raffole des fleurs, un patron que son nom destine magnifiquement à l'amour des Jacinthes, Jean Floressa des Essintes. Dans À rebours, le héros d'Huysmans soutient que, décidément, par les temps qui courent, les horticulteurs sont les seuls et les vrais artistes. Tel que la conçoit des Essintes, l'horticulture est un art de la métamorphose, du vrai en faux, du faux en vrai, par un jeu d'artifice. Pour le Mandiargue de Jacinthe, l'horticulture est aussi un art de la métamorphose, mais d'une toute autre façon, qui est celle d'un créateur de mythes. Mon propos sera d'examiner l'enchaînement de 3 métamorphoses, de 3 naissances, au terme desquelles les Jacinthes sont devenues les fleurs de Pierre, Pierre, P-I-E-Y-R-E. Entrons donc dans l'usine métamorphique. L'usine métamorphique est une expression de Claudel, grand passionné de lapidaire lui aussi, et qui décrit par ce terme donc la genèse des pierres précieuses. Je partirai d'une définition de Mandiargue donnée de son recueil à Francine Mallet. Jacinthe est sur le thème de la fleur de ce nom une suite de 13 poèmes de longueur variable, commencés à Mouton-Rothschild le 30 décembre 65 et achevés à Paris le 28 février 66. L'édition originale a paru le 23 mai 67 chez OLV, c'est cette édition sous la forme d'un album de luxe tiré à 85 exemplaires que j'ai la grande chance de vous présenter. Les poèmes sont accompagnés de 8 estampes en couleur pleine page par Alexandre Bonnier, qui a illustré Bourges, dont parlait tout à l'heure Alexandre. C'était sa première contribution à un livre d'artiste. La peinture a sa place aussi, à côté des arts mineurs, dans l'aventure des Jacinthes. Et pour une description plus précise de l'objet, je vous renverrai volontiers au livre d'Ivona et Alexandre, Vision de Mandiargue, qui apporte quelques précisions précieuses. Aucun des 13 poèmes n'a fait l'objet d'une publication pré-originale, ce qui est notable chez Mandiargue, pas de dédicace non plus. Ce qui rend l'édition vraiment originale est que le papier des pages de garde s'y voit mêlé de cheveux noirs. Entre la Jacinthe et les cheveux, l'analogie n'est pas neuve. On la rencontre déjà chez Sully Prudhomme, qui n'est peut-être pas une grande lecture de Mandiargue, dans le sonnet « La Jacinthe », je cite, « La racine s'épand comme une chevelure ». Vous trouverez le poème à la fin des deux pages que j'espère vous avez tous. Mais chez Mandiargue, ce sont de vrais cheveux, qui sont insérés par collage, ce qui fait de Jacinthe un livre-objet, et par un geste fétichiste, un livre-corps, autant déjà dire un livre-sexe. Un an après l'original, en octobre 68, Mandiargue recueille la suite dans Ruisseau des Solitudes, donc cahier de poésie, cinquième cahier de poésie. Jacinthe devient le volet central d'un triptyque entre Ruisseau des Solitudes et Chapeau Gaga, Aucun cheveu ne vient plus sexualiser les pages de Garde. Aux illustrations de Bonnier, comme le disait Yvonne tout à l'heure, s'est substitué un portrait photographique de l'auteur. D'une édition à l'autre, le texte n'a subi aucune retouche. Présenter Jacinthe comme une suite, c'est souligner la solidarité des poèmes. Tous datés, situés, ils se succèdent dans l'ordre de leur composition, selon un parcours en 13 étapes ou 13 stations qui appelle une lecture linéaire que nous ne pouvons évidemment pas faire ici. À son apparition au XVe siècle, la suite comprend 4 danses, puis le nombre de mouvements s'est étendu, diversifié, et quand Mandiargues qualifie Jacinthe de suite, c'est dans un emploi contemporain. Ainsi, par exemple, des suites pour piano du musicien italien Chelsea, dont les compositions monophones sur une seule note fascinaient le poète. Mais le prénom de Chelsea, autant que sa musique, a sa place dans l'aventure. Giacinto, c'est-à-dire à la fois Jacinthe ou Hyacinthe en italien. S'agit-il d'une rencontre de noms ? On peut penser qu'il y a un hommage discret de Mandiargues. Et Jacinthe peut être considérée comme une suite monophone sur un seul titre repris 13 fois. Pour filer la métaphore musicale, on pourrait également dire que le recueil se présente comme une série de 13 variations sur le thème du nom Jacinthe. Variation est le mot juste. Les poèmes comptent de 5 à 55 vers. Aucun ne reprend la forme de l'autre, ce sont des vers libres, non rimés, avec quelques jeux d'assonance. La métaphore musicale s'accorde avec l'enchaînement chronologique pour marquer l'importance du temps dans ce qui se présente comme un journal de poèmes, tenu à un rythme irrégulier durant 2 mois, entre le 30 décembre 65 et le 28 février 66. La suite est entreprise au château Mouton-Rothschild, grand cru du Bordelais, d'où sont datées les 6 premières. Les 2 suivantes conduisent à Paris, vient une escale unique à Genève, et les 4 derniers poèmes ramènent à Paris. Autant d'indications de lieu et de temps qui entrent dans la Montjoie des circonstances. Montjoie des circonstances, on en parlait tout à l'heure, est le titre donné par Mandiargues en 64 à un ensemble de poèmes brefs, recueillis dans le Point où j'en suis. L'expression étant tombée en désuétude, Mandiargues en rappelle l'usage à Francine Mallet. Des poèmes de circonstances, nombreux, sont réunis en Montjoie, c'est-à-dire, selon Littré, comme un monceau de pierres jeté en signe de victoire ou pour marquer le chemin. Littré l'accompagne d'un rappel historique. Montjoie vient de Montjoie-Saint-Denis, du nom de la colline près de Paris où Saint-Denis subit le martyr. Ainsi dite parce qu'un lieu de martyr était un lieu de joie pour le saint qui recevait sa récompense. L'expression a été utilisée comme cri de guerre par les Français au Moyen-Âge et tout récemment contre le président Macron. Monceau de pierre à portée symbolique, martyr, cri de guerre, voilà autant de suggestions qui font sens dans l'aventure des Jacinthes. Et si Mandiargues est revenu avec insistance sur la genèse des poèmes, c'est pour jeter à chaque fois de nouvelles pierres sur la Montjoie. Fin 67, il précise au poète René Lacôte, « Jacinthe est une série de poèmes assez noirs, écrit dans une époque où je me trouvais seul en fin d'année, on m'avait logé dans une chambre luxueuse avec des jacinthes dont l'odeur sexuelle finissait par devenir obsédante. » Par ailleurs, Mandiargues confie à Francine Mallet que les changements d'année, ce que les gens appellent les fêtes, sont pour moi difficiles à passer. J'avais exorcisé le changement pour une fois grâce à cette suite de poèmes où l'érotique se mêle aux funèbres, comme dans le parfum des jacinthes blanches que je respirais dans la chambre turque où l'on m'avait logé à Mouton. Jacinthes sont des fleurs d'hiver, hein, malheureusement, sinon ça aurait été très bien de pouvoir en présenter quelques-unes. Le 30 décembre 65, veille de la Saint-Sylvestre, se sont ainsi rencontrés à Mouton-Rothschild la solitude du poète, l'odeur sexuelle des jacinthes et le mal des tournants, rencontrés, ou plutôt conjugués. Que les fleurs blanches soient à l'origine de la noirceur des poèmes, c'est ce que confirme une note inédite du poète. Je cite, « Le plus noir parfum que je connaisse est celui des jacinthes blanches. Exalté par la brièveté des jours d'hiver, il laissa mon papier comme imprégné de cheveux, vestige de la longue nuit, trace ou message de la femme que j'aime. » Voilà qui révèle que les cheveux insérés viennent de Bona. Enfin, retrouvés, on les a vus sur l'image, les voici, les vrais cheveux, visiblement. Bona, enfin retrouvé donc par son poète, au terme d'un parcours qui donne à la suite des jacinthes un enjeu secret. Revenons à Mouton, où se déclenche la floraison. Ce domaine du Médoc, fondé à Pauillac en 1853, a pour emblème un mouton figuré par une sculpture à l'entrée du domaine. Le responsable du château, Philippe de Rothschild, était un ami de Mondiargues qui demandait à un artiste d'illustrer chaque nouveau millésime. Plusieurs proches du poète ont contribué à ce rite. Léonore Fini, Bernard Dufour, Dorothée Attaning et Bona elle-même en 68, mais après la parution de Jacinthe en 67. Un enchaînement qui retient l'attention. Car c'est bien la figure jamais nommée de Bona qui hante Jacinthe de son absence. À Mouton, Mondiargues est séparé de sa peintresse depuis 1959. À la demande de celle-ci, leur divorce a été prononcé le 26 janvier 61, jour d'autant plus funeste pour le poète qu'il marque l'anniversaire du suicide de Gérard de Nerval en 1855. C'est dans cette période d'éloignement qu'est composée la suite des jacinthes. Mais tout va bientôt changer. Quelques mois après le séjour à Mouton, à l'automne de 66, Mondiargues et Bona vont reprendre une vie commune et se remarier. Telle est la singulière situation des jacinthes, que ces poèmes ont été composés dans la séparation, mais que leur publication donne corps aux retrouvailles des deux amants. Ces poèmes nés dans la solitude, les voici enserrés par des cheveux qui scellent, on pourrait dire, une alliance nouvelle du poète avec le corps de la femme aimée, car ses cheveux font penser à d'autres poils, naturellement. Des cheveux qui sont désormais sous bonne garde, bonne page de garde. L'aventure à rebond, déjà sainte entre écriture et publication, tient une place pivotale chez Mondiargues. De là, une question inévitable. L'écriture des jacinthes a-t-elle eu un pouvoir d'exorcisme? Le paradoxe de ces poèmes de circonstance, c'est qu'ils sont sibyllins. La suite des jacinthes se tient dans un espace indécis entre confidences douloureuses et cryptographies à déchiffrer. Si les allusions autobiographiques, les références littéraires, pictural ou mythologique s'y multiplient, c'est sur le mode de l'ellipse, du discontinu, du cachet montré, du coupé court. Quel est donc le secret mexicain que la fatalité de Taxco n'invoque que pour le dérober dans la Jacinthe 12 et cet avion jet qui vient trancher le bleu du ciel en deux D'où tient-il son pouvoir de déchirure dans la neuvième jacinthe? Des scènes s'ébauchent, des souvenirs sans pardon sont livrés à l'état de bribes. Dans le tournoiement, jacinthe 4, des circonstances demeurent deux points fixes. La chambre turque où séjourne Mandiargue et l'odeur de la jacinthe blanche. De la chambre, le poète ne fournit que quelques détails. S'il n'y fait pas entrer le lecteur, c'est qu'elle n'est pas un décor, mais le huis clos d'une expérience. Au fil des poèmes, la chambre turque se transforme en boudoir, en salle de torture, en crypte funéraire ou en alambic. Elle devient ce qu'on pourrait appeler la chambre noire de l'imagination, pour emprunter une expression à Sandra. Le seul vrai point fixe, c'est la fleur. Tout tourne autour de la jacinthe, qui attire à elle, comme un aimant, plainte, quatrième jacinthe, sainte, C-E-I-N-T-E, dixième jacinthe, sainte, S-A-I-N-T-E, onzième jacinthe, ou absinthe. Avec en filigrane, c'est mon hypothèse du moins, le nom de désessainte. Autant de rimes obligées qu'on rencontre déjà dans l'odeur des jacinthes un poème de Remy de Gourmont, extrait des lettres à Sixtine. Je le cite. L'odeur des jacinthes vibrait dans l'encens, l'orgue avait des plaintes à troubler les saintes, l'odeur des jacinthes vibrait dans l'encens. Je ne sais pas si Mandiargue connaissait le poème de Gourmont, mais peu importe. Je ne songe pas ici à une influence littéraire, mais au pouvoir d'emprise de la jacinthe, qui fait d'elle, par son odeur et dès son nom, une fleur fatale. Autour des rimes obligées, par moutonnement, s'élabore un univers aux couleurs décadentes, où le désir se mêle violemment à la mort et le tourment à une religiosité mal désignée. Violent est le contraste entre les évocations de la jouissance féminine et les analogies insistantes qui rapprochent la jacinthe du linceul, du suaire, du tombeau, pour faire d'elle un funèbre plant, une funèbre fleur, une funèbre beauté blanche, une floraison sépulcrale qui invite le poète a une funèbre veille, jusqu'à la tentation du pire qui affleure dans la troisième jacinthe. Le cœur s'empêtre, peut-être il vaudrait mieux user du noir tunnel où va, métro, la balle de revolver, peut-être. Les jacinthes chez Mandiargue ne parlent pas le langage de la tradition florale. L'horticulteur, philosophe Michel Beauvais estime que la jacinthe est polyglotte selon qu'elle est de couleur blanche, bleue, rose, rouge ou jaune. À la seule jacinthe rouge, il attribue une valeur de mélancolie, en opposition avec les messages amoureux des quatre autres, la blanche, « Je suis heureux de vous aimer ». Les 12 premières jacinthes de Mandiargue sont blanches. Et le moins que l'on puisse dire de leur langage olfactif est qu'il n'est pas porteur de bienveillance amoureuse. Ces jacinthes parlent plutôt le langage de la jacinthe rouge, rouge d'un rouge sang. Sans doute, le parcours du recueil conduit-il vers une 13e jacinthe qui est rose et plus conforme au symbolisme optimiste de cette couleur. Mais pour la fleur blanche, il faut réviser les idées reçues, comme y invite la jacinthe 9. Soumis à l'ordre mémorial, ici, ailleurs ou là, je suis exact. Mémorial, et non pas mémoriel. L'archaïsme oriente moins vers les souvenirs personnels que vers la mémoire de la fleur elle-même, une mémoire immémoriale qui fait de toute jacinthe, quelle que soit sa couleur, un mémorial. Pour l'entendre, il faut faire parler le nom de la jacinthe. Un nom répété, martelé avec obstination en basse continue. un nom terrible, selon le sixième poème, qui est le poème du nom et dessine son blason. Terrible est le nom de Jacinthe, que je vois imprimé dans un livre noir, en caractère plus blanc que les mouettes, qui traçait une signature illisible sous le courroux du ciel d'orage. Pour découvrir ce qui rend terrible ce nom de Jacinthe, il faut consulter Ovide. Deux de ces métamorphoses font naître la Jacinthe du sang d'un homme tué de mort violente. Quelle que soit sa couleur, la Jacinthe est une fleur de sang. La plus connue des fables rapporte l'histoire d'Hyacinthe, un jeune lacédémonien qui était l'amant d'Apollon. Tous deux se divertissaient au lancement du disque lorsque celui d'Apollon a rebondi sur le sol pour frapper Hyacinthe et le tuer. Désespéré, Apollon décide de faire naître une fleur du sang de son amant. Et pour perpétuer ses propres gémissements, il grave sur les feuilles de la fleur deux lettres « A-I, A-I, hélas, hélas ». Et il annonce que le nom d'un héros vaillant entre tous viendra se lire lui aussi par la suite sur les mêmes pétales. Juste au passage, l'amour et la mort de Hyacinthe ont fourni le livret du premier opéra de Mozart, qui avait 11 ans. Ce héros, second héros annoncé par Ovide, sera Ajax, le grand Ajax, lequel compte parmi ses exploits un combat avec Hector, au terme duquel le Troyen, par admiration, lui a offert son épée. Après la mort du bouillant Achille, Ajax a disputé à Ulysse l'honneur de recevoir les armes du défunt. Mais les chefs grecs ont préféré les remettre à Ulysse, et Ajax, fou de désespoir, s'est suicidé avec l'épée que lui avait offerte Hector. En se répandant sur le sol, son sang a fait éclore une seconde fois la fleur de pourpre, ainsi que le souligne Ovide. Les mêmes lettres, convenant aussi bien à l'enfant qu'à l'homme, sont inscrites sur le milieu des pétales, celle pour le premier de son nom, pour le second de sa plainte. Étrange floraison. Selon Ovide, la Jacinthe est une fleur deux fois née, à chaque fois du sang d'un homme, ce qui fait bien d'elle une fleur terrible et funèbre. Et Mandiargue la place dans son environnement mémorial exact, linceul, suaire, tombeau, sépulcre. Première métamorphose. La Jacinthe est donc née de la métamorphose d'un homme, de deux hommes, d'un homme dédoublé, en fleurs, ainsi qu'il en va également de Narcisse, d'Endymion ou d'Adonis. Mais comment nommer le changement de règne qu'ils subissent? Quand un héros se voit expédié dans le ciel, il s'agit d'un catastérisme. Tel est le destin d'Orion, le chasseur géant qui pouvait marcher dans la mer en gardant la tête hors des flots et qui a défié Artémis, sa déesse de tutelle, peut-être même tenté de la violer. Celle-ci a suscité le scorpion qui a piqué le violent, l'a mise à mort, et Artémis, peut-être secrètement amoureuse du héros violent, l'a constellé. Beaucoup d'écrivains ont rappelé cette aventure et se sont identifiés à Orion. Par ailleurs, quand un héros se voit changer en roc ou en marbre par l'intervention de Méduse ou de sa tête brandie par Persée, il s'agit d'une pétrification. Mais la métamorphose d'un homme en fleur est absente, cruellement absente, du lexique. Comment donc nommer la mort florifère d'Hyacinthe, redoublée par celle d'Ajax? Et comment faire percevoir que c'est d'un homme, un héros, que la fleur tient son nom. Les métamorphoses rapportées par Ovide sont deux fables de l'antonomase. Dans les deux cas, un nom propre, celui d'Hyacinthe puis celui d'Ajinx, a été changé en nom commun, Hyacinthe puis Jacinthe. Que l'antonomase prenne place au cœur de la création d'André-Pierre de Mondiargues n'est plus un secret. C'est elle qui lui permet de traiter son nom en carrière pour en extraire les pierres, les diamants ou la craie qu'il distribue au fil de ses poèmes et de ses contes. L'âge de craie, le diamant, les pierreuses, marbre, parmi tant d'exemples. En se faisant le lapidaire ou le gémologue de son nom propre, le poète s'invente une signature minérale pour communier avec la pierre, pierre parmi les pierres. Toute son œuvre est à cet égard une mongeoie. Mais dans l'aventure d'Hyacinthe et d'Apollon, par quoi commence l'histoire de la jacinthe ? Il s'agit de la naissance d'une fleur et non pas d'une pierre. Pour rémunérer ce fâcheux défaut du lexique, il faut s'adresser à Derrida, au Derrida de Glas, qui s'est tourné vers un poète au nom de fleur, Jean Genet, lui-même très attentif à interroger son identité à partir de cette tutelle florale et qui tient les genets pour son emblème naturel. Pour motiver l'antonomase qui unit l'homme à la fleur, Derrida lui ajoute une hache, comme dans Anthologie, qui est une collection de fleurs. L'histoire d'Hyacinthe, comme celle d'Ajax, peuvent être considérées comme deux fables de l'antonomase avec une hache. Près du catastérisme et de la pétrification, ajoutons donc la figure de l'antonomase avec cette terrible hache qui a pris dans la légende d'Hyacinthe la forme d'un disque et dans celle d'Ajax la forme d'une épée, une hache mortifère qui se perpétue aussi bien dans le nom d'Hyacinthe que dans celui de Jacinthe. Car, deuxième métamorphose, nous voici en présence de deux noms distincts. Tout est double dans le destin de la Jacinthe, deux naissances, mais aussi un usage qui a oscillé entre Hyacinthe et Jacinthe, entre une fleur et une pierre précieuse. Que le nom de l'amant d'Apollon est passé dans celui de la fleur, c'est ce que montre Ovide. Mais nous voici devant une seconde métamorphose dont il n'a pas compté la genèse, un ricochet lexical ou une relance du disque que Littré se borne à constater. Hyacinthe, Étime, nom d'un personnage mythologique tué par Apollon et transformé par lui en fleur, le nom de la fleur a passé à la pierre. Étonnant passage que celui de la fleur à la pierre. Et pourtant, les lexicologues, comme les mythographes, se contentent de l'entériner. Aucune légende n'en résout l'énigme. Pas davantage que le chassé-croisé par lequel la jacinthe a pris le relais de la hyacinthe, de l'hyacinthe pour désigner la fleur, cependant que la jacinthe a parfois servi à désigner la bière. Larousse, de son côté, note que jacinthe est une altération d'hyacinthe et c'est dit pour elle. En feuilletant le grand dictionnaire universel du 19e de Larousse, on découvre un substantif qui retient l'attention. Le lithoxyle. Le lithoxyle désignait un végétal changé en silex, agate ou autre pierre. Il est tentant d'en relever l'usage. Le passage de la fleur à la pierre, ce serait un cas de lithoxylie lexicale. Une incongruité aussi mentale avait de quoi séduire Mondiargues. Le chiasme de désignation entre la fleur et la pierre a éveillé en lui une vocation d'horticulteur lapidaire. Et le destin d'Hyacinthe, changé en fleur puis en pierre, avait de quoi combler le poète qui aime voir se confondre dans l'art baroque les trois règnes de la nature. Mais là ne s'arrête pas le tournoiement des désignations. Alors que la métamorphose d'un homme en fleur et d'une fleur en pierre trouble les frontières entre l'animal, le végétal et le minéral, l'amant d'Apollon a légué à l'onomastique un double héritage. Hyacinthe est demeuré un prénom d'homme, tandis que Jacinthe est devenu un prénom de femme. Un homme pierre et une femme fleur se départent tous deux d'un héros homosexuel. Voilà qui a dû ravir Mandiargue, je l'imagine, qui, dans la compagnie de Filippo de Pisis, son grand ami, aimait passer pour un homosexuel, mais pour un homosexuel bizarre, puisque toujours entouré de femmes, ce qui l'a conduit à se qualifier lui-même de lesbien. Dans Jacinthe, Mandiargue n'évoque jamais directement les morts d'Hyacinthe et d'Ajax. Peut-être pour inviter le lecteur à mener l'enquête, comme s'y emploie le poème du nom déjà cité que je rappelle. Terrible est le nom de Jacinthe, que je vois imprimé dans un livre noir, en caractère plus blanc que les mouettes qui traçaient une signature illisible sous le courroux du ciel d'orage. De la fleur à la signature en passant par les mouettes, le glissement analogique en rappelle un autre au lecteur d'Astyanax, recueil paru en 57, en tête duquel figure un avertissement négatif. Non pas le fâcheux fils d'Hector. Astyanax, c'est le cri des mouettes et des hirondelles de mer devant les hautes falaises de craie percées de nids qui ont muré les meilleurs jours de mon enfance. Une dénégation, de toute évidence, et qui conduit à une hypothèse. Le cri des mouettes révélerait-il la signature illisible qu'elle trace dans le ciel? Serait-ce le nom d'Astyanax qui s'y dissimule en palimpseste? Rappelons, j'en ai déjà parlé, mais rappelons que Mandiargue avait quelques raisons de trouver fâcheux le fils d'Hector. Comme Astyanax, André est un orphelin de guerre. Son père, comme Hector, a été tué au combat. Et sa mère, comme Andromaque, s'est recluse dans son veuvage. Quant à Astyanax, il n'apparaît jamais dans l'entremac de Racine. C'est un infans, un enfant privé de parole, qu'Oreste vient réclamer au nom des Grecs. Car son destin, à leurs yeux, est tout tracé. Le fils du héros troyen voudra prendre les armes pour venger son père. Le mieux est donc de le précipiter du haut des remparts de Troie. Ulysse s'est chargé de la besogne. Terrible est le dilemme dans lequel l'enfance d'Astyanax a été murée. Prendre les armes à la suite de son père, ou bien être mis à mort préventivement par les ennemis de son père. De quoi murer son enfance? Risquons-nous à transposer? Mandiargue s'est lui aussi longuement muré dans le silence. Il fut longtemps un enfant bègue, un infant à sa façon. Puis un poète qui a longtemps écrit en secret et dans la honte. Durant la Seconde Guerre mondiale, il n'a pas pris les armes contre ceux qui avaient tué son père. Réfugié à Monaco, il a délaissé l'épée pour la plume et il a rompu le silence en publiant dans les années sordides en 1943. Quand Mandiargue confie à Francine Mallet « Je suis un enfant des vagues et du cri des mouettes », il se reconnaît implicitement en Astyanax, tout en faisant entendre qu'il a surmonté, déjoué le fâcheux destin qui l'attendait. Ce jeu d'identification conduit à considérer la signature illisible comme une troisième signature de l'Ajacinthe, au nom d'Hyacinthe et d'Ajax, dont la mort violente a fait naître deux fois la fleur, elle incite à ajouter celui de l'Astyanax, que fut Mandiargue, avant de s'en dépouiller en devenant poète. Hyacinthe, Ajax, Astyanax et Mandiargue forment un quatuor de noms, qui contiennent tous les quatre le A et le I. Le Aï fatidique, ce cri de douleur qui est inscrit dans la jacinthe. Leur plainte se mêle dans la signature illisible de la fleur. Je ne voudrais pas dépasser outre mesure le temps imparti, etc. Donc il faudrait parler ici, j'avais prévu de parler ici, de la découverte qu'on a faite en 2001 d'une 14e jacinthe nommée par Mandiargue dans un cahier manuscrit nommé Jacinthe Omise. Jacinthe Omise, c'est étrange de l'avoir écartée du recueil et en même temps de l'avoir préservée. Ce n'est donc pas un désaveu que cette absence, mais un geste significatif qu'il faudrait interpréter et qui modifie de son absence, de son éventuelle présence, le sens du recueil et qui hésite ainsi entre deux trajectoires que peut symboliser le symbolisme des nombres entre le 13 retenu et le 14 écarté, le 13 étant, comme chez Nerval, la 13e revient, c'est encore la première, la marque d'une relance, effectivement, de la série, alors que le 14 peut s'apparenter, effectivement, dans un modèle prestigieux, aux étapes de la Passion. Ici, ce qu'a retenu Mandiargue, c'est donc le mouvement de relance et la suite publiée, effectivement, se termine sur un point d'interrogation dans la 13e jacinthe qui est rose. La 13e jacinthe est rose. N'est-il pas simple de vivre au niveau des feuilles et du sol public indivisiblement ? Simple parmi les simples, jacinthe parmi les jacinthes. Au terme de la leçon fiévreuse que lui ont fait subir les jacinthes dans la chambre turque, Mandiargue est parvenu à se délivrer de leur emprise mortifère par une singulière opération que révèle la 12e jacinthe. Goule, serpent ou truie, cassolette létale, j'ai retourné comme un sac le sexe pâle de la jacinthe. C'est ainsi qu'on attrape les pieuvres, explique Mandiargue à Francine Mallet. On enfonce les deux pouces à la fois dans l'orifice du sac, qui est leur corps, et on retourne ce sac avec force, opération qui provoque une éjaculation d'encre au moment où les tripes de la bête sont mises à l'air. Traiter la jacinthe, sexe féminin, comme une pieuvre, afin de vider la cassolette létale, c'est la tuer. Et la faire rejoindre Hyacinthe et Ajax, auxquels elle doit sa naissance, mais la tuer pour la faire renaître. Tombeau-berceau, dit Mandiargue. Tombeau-berceau. Cet exorcisme radical, il l'a transposé à son propre usage, ou plutôt à celui de l'Astyanax qu'il fut et redevient parfois, comme il le confie à Francine Mallet. Il y avait en moi cette immense timidité, véritable névrose, dont j'ai été victime pendant bien des années et qui persiste encore, quoique par l'exercice de l'écriture, je suis arrivé non pas à m'en débarrasser, mais, pour user d'une métaphore qui m'est familière, à la rendre inoffensive en la retournant comme un pêcheur retourne une pieuvre. Bon, avouons que l'interprétation ici devient très délicate. Qu'advient-il quand on retourne le sexe féminin de la jacinthe? La débarrasse-t-on d'un poison trop chéri? Mondiargue est-il ainsi parvenu à se mithridatiser à mouton? Ou bien, dans l'usine métamorphique du recueil, le sexe féminin de la jacinthe, quand on la retourne comme un sac, se transformerait-il en sexe masculin qui fut, aux origines, celui d'Hyacinthe et d'Ajax? Les eaux fortes de Bonnier qui accompagnent le déroulement de la suite ne sont certes pas des illustrations. Mais au risque de forcer un peu l'interprétation, l'évocation, les sept premières me paraissent placer la jacinthe sous le signe d'un féminin aux tentations persécutrices. On fait passer les sept premières. Voilà, c'est quand même une sorcière, n'est-ce pas ? Quant à la septième, écoutez, sans forcer tout de même l'interprétation, il me semble qu'elle fait apparaître la jacinthe comme un pénis. Donc, on en parlera peut-être. Pour conclure, la jacinthe est née pour la troisième fois, pour la troisième première fois, au tournant de 65-66, dans la chambre noire de l'imagination, que fut, pour Mondiargue, le huis clos de la chambre turque à Mouton Rothschild. La cristallisation d'une jacinthe en hyacinthe, qu'atteste le vocabulaire, mais dont aucune légende ne rend compte, c'est Mondiargue qui l'a accompli, ou plutôt qui l'a érigé. Érigé, mot significatif, dans la dixième jacinthe. Ainsi, la jacinthe est sainte de crocs où se décharnent suavement les agneaux de l'amour, même, et je la planterai sur mon église. À peine besoin de rappeler ce que le dernier vers doit à une formule consacrée. Pierre, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Cette parole du Christ, rapportée par Matthieu, me semble donner la clé du vers de Mondiargue et de la suite tout entière. Elle achève le cycle des métamorphoses sur une paraphrase. Jacinthe, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai ma vie nouvelle. Après l'antonomase décrite par Ovide est baptisé par Derrida, après le lithoxyle que suggère Larousse, cette troisième métamorphose est un blasonnement. La jacinthe est entrée dans le blason de Mondiargue, IA, pour devenir la fleur de pierre, PIEYRE, au terme d'une genèse en 13 poèmes que seul un poète lapidaire et horticulteurs pouvaient signer entre les arts. Merci.